Histoire de la statue miraculeuse de Notre-Dame de Bonne Délivrance, vénérée dans la chapelle des religieuses hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, par un prêtre du clergé de Paris. À Marie, consolatrice des affligés et salut des infirmes, gloire, reconnaissance et amour. Sur les bords de l'océan, parmi les rochers solitaires, on voit s'élever la chapelle gothique dédiée à celle qu'on appelle l'étoile de la mer. C'est cette vierge du rivage natal que le marin implore quand la tempête assaille son bâtiment et qu'il n'a plus d'espoir dans ses manœuvres. Et lorsque, arrivé au port, la reconnaissance le presse d'aller à la sainte chapelle, on le voit s'agenouiller dévotement devant la Madone et déposer à ses pieds son offrande. Entrez dans l'un de ces humbles sanctuaires et voyez ces ex-voto sans nombre suspendus. Aux murailles, ici un gouvernail, un mât, une voile. Là, une ancre de sauvetage, une planche libératrice. Tels sont les trophées de la puissance et de la bonté de Marie. Oh, combien sont touchants ces asiles de la foi, simples et naïves. Ces phares de la délivrance vers lesquels le navigateur, dans la détresse, tourne ses vœux et ses mains suppliantes. Mais la terre a aussi ses orages. Considérez nos cités tumultueuses. Voyez Paris, ce champ de bataille entre le génie du bien et du mal. Paris, point central d'où partent et où aboutissent les tempêtes politiques qui agitent la France et le monde. Que de naufrages sur cette mer orageuse. Et combien plus touchants sont les sanctuaires élevés à la patronne des navigateurs sur ce redoutable océan des choses humaines. Oui, Paris possède de glorieux monuments de la protection de Marie. Depuis lui renommée dans l'histoire de cette antique métropole est dédiée à Notre-Dame, refuge des peuples dans les calamités publiques, où durant le cours de la monarchie, nos rois vinrent si souvent demander à la libératrice de la France les faveurs du ciel et placer leur royaume sous sa providence tutélaire. Près de là, c'est Notre-Dame des Victoires, titre bien mérité par les conquêtes merveilleuses et touchantes du cœur immaculé de Marie. Dans le quartier orageux des écoles, à l'église Saint-Séverin, c'est Notre-Dame de Bonne Espérance. À Saint-Sulpice, Notre-Dame de Liesse ou de Joie. À l'abbaye au bois, Notre-Dame des Sept Douleurs. Puis Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Notre-Dame de Lorette et Notre-Dame de Paix. Au couvent des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, chez les apôtres de l'Océanie. Mais parmi ces sanctuaires, il en est un, autrefois célèbre, et qui, renversé par la tempête révolutionnaire, a été réédifié et consacré depuis quelques années seulement à la patronne de la France, qui semble l'avoir adopté pour le lieu de ses faveurs les plus intimes, et comme un asile de plus ouvert à ceux qui souffrent. C'est la chapelle de Notre-Dame de Bonne Délivrance, érigée chez les religieuses hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve. Solitaire et retiré, ce modeste oratoire ne se ressent nullement de l'agitation qui l'entoure, et le tumulte de la grande cité vient expirer au pied de son enceinte. Semblable à la fleur qui se cache et ne repent pas au loin ses parfums, il n'est pas fréquenté par la foule. Il n'est connu que d'un petit nombre de chrétiens d'élite qui viennent y chercher le repos du cœur et y respirer la douce odeur de la piété. Mais il est surtout visité par les âmes affligées de peines intérieures et agitées par le vent des tentations. Car ce que le monde est en grand, le cœur humain l'est en moindre proportion, une mer orageuse sur laquelle s'élèvent souvent de furieuses tempêtes. Or, c'est dans ce sanctuaire privilégié que les âmes tourmentées par ces sortes d'épreuves en ont souvent obtenu la délivrance, et que les regards de Marie ont plus d'une fois dissipé les nuages du désespoir. À l'ombre de son autel, décoré par des mains pures, la prière monte plus fervente vers le ciel et en fait descendre des trésors d'espérance et de consolation naturelle, surnaturelle. Aussi, les affligés et les infirmes se plaisent à s'y réfugier pour y solliciter la guérison de leurs maladies morales et corporelles. Tantôt, on y surprend une épouse contristée qui s'efforce par d'instantes prières de regagner à Jésus-Christ le cœur d'un mari indifférent ou irréligieux. Tantôt, c'est une autre Monique qui, lasse de reprocher en vain un nouvel Augustin, ses précoces égarements, vient réclamer le secours de celle qui a reçu le pouvoir victorieux de changer les cœurs. Quelquefois, c'est une jeune âme qui flotte entre Dieu et le monde et qui demande à Marie, avec une pieuse anxiété, dans quelle voie elle doit marcher et implore avec larmes les lumières du ciel. Souvent, ce sont des femmes âgées qui vivent dans l'hospice voisin et qui se sont traînées péniblement au pied de Notre-Dame de Bonne Délivrance pour faire brûler un cierge en son honneur et lui demander la grâce de porter avec résignation les derniers jours d'une existence pénible. Plus loin, c'est un malade qui conjure par ses soupirs plus que par ses paroles la Vierge puissante de lui tendre cette main d'où s'échappent tant de guérisons. En un mot, c'est là que la voix suppliante de ceux qui souffrent aime à se joindre aux doux accents de religieuses ferventes qui psalmodient l'office de la Sainte Vierge ou qui récitent les litanies de Notre-Dame de Bonne Délivrance, afin d'obtenir de cette consolatrice des affligés un remède à leur douleur. Mais quel est donc le monument merveilleux qui s'offre à la piété catholique dans ce sanctuaire privilégié? Est-ce un chef-d'œuvre de l'art, objet de l'admiration du siècle? Non. C'est une statue de pierre taillée avec la plus grande simplicité et mise en couleur par un pinceau naïf et peu savant. Elle représente une Vierge au teint noir, tenant sur son bras gauche l'enfant Jésus, et qu'on invoque sous le titre de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Cette image est enrichie de nombreux ex-voto. Ce sont des cœurs dorés et argentés, emblèmes des guérisons morales opérées par la consolatrice invisible des affligés, et qui sont un gage authentique de la reconnaissance de ceux dont elle a écouté la prière à l'heure de la tentation. Oh, quelle est l'origine de cette statue? Sur quoi est fondé le culte qu'on lui rend? Quels sont les souvenirs qui s'y rattachent? Telle est l'histoire que nous entreprenons de raconter. Vierge, quelque chose d'infiniment supérieur à toutes les idées matérielles et que le calcul humain y est étranger. On sent que l'homme ferait mieux. Et qu'on ne dise pas que, pour séduire les peuples, il a fallu travailler de la sorte. Car il serait absurde de prétendre qu'un informe morceau de bois ou de pierre est plus propre à agir sur les esprits et à les fasciner que le beau idéal de la sculpture ou de la peinture. Il vaut mieux reconnaître que Dieu a voulu, par là, empêcher les fausses dévotions des personnes peu instruites, qui auraient pu attribuer quelques vertus à ces statues elles-mêmes, si elles eussent été d'un travail fini. De cette manière, il est visible que c'est Marie, elle-même, qu'on honore et qu'on invoque dans sa terrestre image. Il existait, avant nos orages politiques, une église collégiale, située dans la rue Saint-Jacques, vis-à-vis le grand couvent des Jacobins, et qui portait le nom de Saint-Étienne-des-Grès. Cette église, dont la fondation remonte à la plus haute antiquité, était renommée par un pieux pèlerinage. On y voyait une statue de la Vierge au teint noir, qu'on honorait sous le titre touchant de Notre-Dame de Bonne Délivrance, et qui était devenue l'objet de la dévotion des fidèles par les grâces singulières dont elle était l'instrument. Des ombres épaisses environnent l'origine de cette miraculeuse image. On croit seulement que la chapelle dans laquelle elle était vénérée fut érigée à la fin du XIe siècle. C'était l'époque où toutes les classes de la société mettaient en commun leurs efforts et leurs richesses pour payer à la Vierge Marie le tribut de leur amour, et où la construction des édifices sacrés entrepris pour sa gloire, était le grand objet de la dévotion des chrétiens. Alors la Mère de Dieu versait ses bienfaits sur les peuples animés d'une foi vive, et les peuples, par reconnaissance, lui bâtissaient des sanctuaires. C'est sans doute ce sentiment d'un juste retour pour de hautes faveurs qui éleva l'oratoire de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Or, en ce temps-là, l'église Saint-Étienne-des-Grès se trouvait isolée dans la campagne et entourée de vignes. Sa situation solitaire permettait donc au peuple de la cité de venir satisfaire sa dévotion pour Marie avec plus de ferveur. Les épouses chrétiennes qui se trouvaient près de leur terme s'y rendaient probablement pour solliciter une heureuse délivrance. Les jeunes mères y apportaient peut-être aussi leurs nourrissons malades et priaient la mère de tous ceux qui souffrent de les guérir. Les bourgeois de Paris gravissaient sans doute la sainte colline pour confier à la Vierge Noire leurs intérêts en péril. Cependant, il ne nous reste aucun titre de la célébrité de ce pèlerinage dans ces temps reculés. C'est seulement vers le milieu du XVIe siècle que l'histoire nous fournit des documents certains sur ce lieu de dévotion à l'occasion d'une confrérie fameuse qui y prit naissance. C'était le temps où l'hérésie de Luther et le schisme de Henri VIII commençaient à déchirer l'Église. L'esprit d'association, l'une des œuvres du christianisme qui tend à resserrer les liens de l'unité catholique, s'empara alors des fidèles, comme par un instinct providentiel. On sentit le besoin de s'enrôler sous la bannière de celle qui a vaincu toutes les hérésies, pour conserver le dépôt sacré de la foi, pour prévenir les dissensions qu'engendre l'erreur, et pour s'occuper du soulagement des infortunés. Parmi toutes les confréries qui se formèrent alors à Paris, la plus célèbre est celle de Notre-Dame de Bonne Délivrance, dans l'église de Saint-Étienne-des-Grès. Voici comment un chroniqueur naïf en raconte l'institution. S'ensuivent les ordonnances faites pour l'érection de la confrérie de la charité de Notre-Dame de Bonne Délivrance, en l'honneur de notre Dieu, notre Créateur et de la glorieuse Vierge Marie, sa très digne mère, et pour entretenir en dévotion singulière tous vrais chrétiens et chrétiennes. Le dimanche 20e jour d'avril, l'an 1533, messire Jean Olivier, prêtre et chanoine de Saint-Étienne-des-Grès, homme grandement pieux, dévot à Notre-Dame, de bonnes mœurs et menant une vie fort honnête, et maître Le Pigny et Quentin Froissant, gens de bien et fort affectionnés au service de la Reine des Anges, tous deux jurés bourgeois de Paris, s'adjoignirent pour commencer l'établissement d'une société sainte sous le titre de confrérie royale de la charité de Notre-Dame de Bonne Délivrance, dans une chapelle de l'église Saint-Étienne-des-Grès, assise hors du chœur et le joignant du côté de main gauche en entrant dans cette église, ayant vue sur la rue Saint-Étienne et au chevet de la dite église, le tout sous le bon plaisir de Monseigneur le Révérendissime Cardinal du Bellay, évêque de l'église de Paris, et par la permission de messieurs du chapitre de Notre-Dame, pour y faire leurs assemblées spirituelles et s'encourager mutuellement à la vertu par des actes de dévotion, pratiquer les bonnes œuvres et délivrer les prisonniers. Tous ceux et celles qui auront dévotion et se voudront faire enregistrer au chapitre de la dite confrérie royale seront participants à toujours aux bienfaits prières, oraisons et divers services qui se feront et se célébreront en donnant pour l'homme et la femme le jour de l'entrée, 10 deniers tournois pour chaque semaine de l'an. Nul ne sera admis dans cette confrérie royale s'il ne sait, par une humble confession de ses péchés réconcilié avec Dieu, son Créateur, et si en même temps il ne promet d'obéir au supérieur de la congrégation et d'assister, selon les règles de la charité, les confrères malades et faire une aumône pour la délivrance des prisonniers. Telle fut l'humble origine de la confrérie de Notre-Dame de Bonne Délivrance qui devait bientôt acquérir tant de célébrité. En effet, Marie fut si touchée du zèle de ses trois premiers serviteurs qu'elle ne tarda pas à montrer combien le sanctuaire de Saint-Étienne-des-Grès lui était agréable. Ses mains laissèrent découler sur les fidèles qui se faisaient enrôler sous sa bannière libératrice des largesses signalées qui de jour en jour y attirèrent un plus grand nombre de pèlerins. Mais laissons un autre historien de Saint-Étienne-des-Grès décrire lui-même les progrès de la pieuse institution. Je cite. « Cette confrérie royale de la charité de Notre-Dame de Bonne Délivrance reçut dès son origine des marques si sensibles de la protection divine que la collégiale de Saint-Étienne devint en peu de temps, renommée par le culte de la Sainte Vierge. En effet, à peine eut-on jeté les fondements que tout le monde y accourut de toutes parts. Elle fit de si grands progrès que, sans aucun bien fond, cette première société de trois personnes réunies sous une même congrégation, plus de 12 000 confrères de l'un et l'autre sexe, qui entretinrent le culte de Marie, avec autant d'éclat que d'édification, non seulement à toutes ses fêtes, mais encore tous les jours de l'année. Qu'est-ce qui lui a donné cet accroissement? C'est le seul titre de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Ce seul mot de Bonne Délivrance y appelle tous les jours. Tous ceux qui sont en perplexité d'esprit, opiniâtreté de volonté, infirmité de corps, tyrannie des passions, oppression des ennemis, ou dans quelque traverse que ce soit. La seule prononciation de ce titre royal est comme un cri public, ou signal général, pour tous les affligés à se réfugier dans les pieds, aux pieds de la Sainte Vierge, et se vouer à cette sainte confrérie. Elle est particulièrement le refuge des prisonniers pour dette, mais aussi des femmes qui se trouvent près de leur terme menacées de la mort et voyant leurs fruits en danger, font vœu à Notre-Dame de Bonne Délivrance. Mais c'est surtout le recours de ceux qui se trouvent à l'article de la mort effrayés des rigoureux jugements de Dieu, de la vision des démons et des tentations du désespoir. C'est pour tous un abri tranquille où l'on vit en paix dans les contretemps les plus fâcheux de la vie et au milieu des orages de ce monde. Enfin, c'est le rendez-vous de tous ceux qui, plongés dans les ténèbres, désirent voir le soleil de la liberté. Fin de citation. Cette narration prouve que, dès les premières années de son institution, la confrérie de Notre-Dame de Bonne Délivrance avait pris une grande extension. Aussi, le souverain pontife Grégoire XIII, voulant favoriser de plus en plus son heureux développement, lui accorda un bref de confirmation et l'honora de grandes indulgences. Ces faveurs contribuèrent en effet à lui donner un nouvel accroissement et attirèrent bientôt sous sa bannière une milice nouvelle et généreuse. En ce temps-là, la jeunesse était portée au culte de Marie par une inclination vive et tendre. Les étudiants des collèges, où tant de bourses étaient données au nom de la Sainte Vierge, ne répudiaient pas, comme aujourd'hui, en entrant dans la carrière des sciences toute pratique du christianisme. Fidèles aux pieuses traditions du foyer domestique auquel la religion présidait alors, avec un doux empire, il ne rougissait pas de s'enrôler au service de la Reine des Vierges et de mettre sous sa garde l'honneur de leurs premières années. Alors ils se réunissaient en commun pour dire le chapelet et se levaient avant le jour pour réciter l'office de Notre-Dame. La Providence voulut donc que la confrérie de Notre-Dame de Bonne Délivrance prit naissance au centre même des écoles de Paris, afin qu'elle fût l'asile de la jeunesse nombreuse qui s'y rendait de toutes les parties de l'Europe, pour étudier sous les grands maîtres et surtout dans les collèges jésuites qui étaient fréquentés par la fleur des étudiants. Or, parmi ces charmants modèles du jeune âge, on distinguait en 1578 un enfant de 11 ans qui venait d'arriver de Savoie, accompagné de son précepteur pour achever le cours de ses études. C'est entre les mains des disciples d'Ignace qu'il venait se remettre, parce qu'il avait entendu dire qu'ils étaient envoyés du ciel pour guider les jeunes générations dans le chemin de la vertu et de la science. Le pieux jeune homme que le lecteur a déjà nommé François de Sales suivit donc leurs leçons avec toute la distinction de son précoce génie. Mais il ne s'appliquait pas tellement à l'étude qu'il ne conserva une partie considérable de son temps pour les exercices de piété. C'est le sanctuaire de Saint-Étienne-des-Grès qu'il avait choisi pour s'y livrer avec plus de recueillement et de ferveur. Ses plus délicieux moments étaient ceux qu'il passait au pied de l'image miraculeuse de Marie. C'est là que, dans de naïfs épanchements, il racontait à sa céleste mère tout ce qui se passait dans son âme innocente. Là qu'il se nourrissait du souvenir de ses bienfaits et du sentiment de la reconnaissance qu'il faisait naître dans son cœur. Un jour, dans l'un de ses pieux pèlerinages, il se sentit inspiré de se consacrer à la Reine des Anges par le vœu de chasteté perpétuelle. Ayant obtenu l'agrément de son guide spirituel, il accomplit cette donation de lui-même au pied de la Notre-Dame de Bonne Délivrance. Là, prosterné contre terre, dit un historien de sa vie, après avoir longtemps gémi devant Dieu avec une ferveur extraordinaire, il lui offrit le sacrifice de son corps et le pria d'agréer que, suivant le conseil de l'apôtre, il renonça pour toujours au mariage. Il se dédia ensuite à la Sainte Vierge, qu'il prit pour sa mère et son avocate, et la supplia de lui obtenir les grâces qui lui étaient nécessaires pour garder la continence. Il est vraisemblable que c'est à cette époque, sinon dès son arrivée à Paris, que le jeune François de Sales entra dans la confrérie de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Nous savons par ses écrits qu'il aimait les livrées de ces sortes d'associations, même celles des plus humbles hameaux. « J'entre, dit-il, dans toutes les confréries que je rencontre, parce qu'il n'y a rien à perdre et tout à gagner par la communication des prières et des bonnes œuvres. Les prières de ces gens simples me seront bien utiles. J'espère bien que je n'irai pas en enfer, mais je crains le feu du purgatoire. Je pourrai y rester longtemps, et j'ai confiance que ces bonnes gens me tireront par leurs prières. » Dès que le fervent congréganiste eut fait vœu de chasteté, il prit la résolution de communier tous les 8 jours. Il sentait qu'il avait besoin de se nourrir fréquemment du pain d'effort pour résister à ses passions naissantes et pour soutenir les épreuves qu'il prévoyait devoir rencontrer en avançant dans le chemin de la vie. En effet, la tentation ne tarda pas à l'assaillir, mais elle se présenta du côté qu'il l'attendait le moins. Comme ce trait d'histoire a contribué à la célébrité du sanctuaire de l'image de Notre-Dame de Bonne Délivrance, nous laisserons un illustre ami de notre aimable saint le décrire dans toutes ses circonstances. Je cite « Parmi les tentations qui éprouvent notre foi, dit l'évêque de Belley, celle qui regarde la prédestination est une des plus pénibles, car c'est un abîme où toute la sagesse humaine est dévorée. Dieu, destinant notre bienheureux à la charge et conduite des âmes, a permis qu'il fût rudement tenté de ce côté-là, afin qu'il apprît par sa propre expérience à être infirme avec les infirmes. Comme il achevait ses études à Paris, n'ayant alors que 16 ans, le mauvais esprit jeta dans son imagination qu'il était du nombre des réprouvés. Cette tentation fit une telle impression sur son âme qu'il en perdait le repos et ne pouvait ni boire ni manger. Il desséchait à vue d'œil et tombait en langueur. Son précepteur, qui le voyait dépérir tous les jours, ne pouvant prendre goût ni plaisir à rien, lui demandait souvent le sujet de sa mélancolie. Mais le démon qui l'avait rempli de cette illusion était de ceux que l'on appelle muets, à raison du silence qu'ils font garder à ceux qu'ils affligent. Il se vit en même temps privé de toute suavité du divin amour, mais non pas de la fidélité, avec laquelle, comme avec un bouclier impénétrable, il tâchait de repousser, quoique sans s'en apercevoir, les traits enflammés de l'ennemi. Les douceurs et le calme qu'il avait goûté avec tant de contentement avant cet orage lui revenaient en la mémoire et redoublaient sa peine. C'était donc en vain, se disait-il à lui-même, que la bienheureuse espérance m'allaitait de l'attente d'être enivré de l'abondance des douceurs de la maison de Dieu, et noyé dans les torrents de ses voluptés. Ô aimable tabernacle de la maison de Dieu, nous ne vous verrons donc jamais, et nous n'habiterons jamais ces admirables demeures du palais du Seigneur. Il demeura un mois entier dans ses angoisses et amertumes du cœur, qu'il pouvait comparer aux douleurs de la mort et aux périls de l'enfer. Il passait tous les jours dans des gémissements douloureux, et les nuits, il arrosait son lit de larmes. Enfin, étant par une inspiration divine entré dans l'église Saint-Étienne-des-Grès pour invoquer la grâce de Dieu sur sa misère, et s'étant mis à genoux devant l'image de la Sainte Vierge, il pria cette mère de miséricorde d'être son avocate auprès de Dieu et de lui obtenir de sa bonté, que s'il était assez malheureux pour en être séparé éternellement, il put au moins l'aimer de tout son cœur pendant sa vie. Voici la prière qu'il récita, tout baigné de larmes et le cœur pressé d'une douleur inexprimable. Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais ouï dire qu'aucun ait été délaissé de tous ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre secours et demandez vos suffrages. Animé de cette confiance, ô Vierge, Mère des Vierges, je cours et viens à vous. Et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et faites que Dieu m'exauce et me pardonne mes fautes par votre intercession. Ainsi soit-il. Il ne l'eut pas plus tôt achevé qu'il ressentit l'effet du secours de Notre-Dame et le pouvoir de son assistance envers Dieu. Car en un instant, ce dragon qu'il avait rempli de ses funestes illusions le quitta, et il demeura inondé d'une telle joie et consolation que la lumière surabonda où les ténèbres avaient abondé. Fin de citation. Telle est la terrible tentation dont François de Sales obtint la délivrance dans le sanctuaire de Saint-Étienne-des-Grès. Une telle faveur ne pouvait rester secrète. Le heureux jeune homme la publia lui-même avec reconnaissance pour la gloire de sa libératrice. Et ce miracle de la bonté de Marie augmenta la renommée de son antique image et lui mérita plus que jamais le titre de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Aussi, après cet insigne bienfait, notre jeune saint lui voua-t-il un culte plus assidu et plus filial, et jusqu'au dernier moment de son séjour à Paris, il en fit le but constant de ses pèlerinages. Au reste, elle était un objet de dévotion pour les plus saints personnages de cette époque, parmi lesquels on doit placer Vincent de Paul et le père Claude Bernard, surnommé le pauvre prêtre. Ce dernier reçut lui-même à ses pieds une grâce non moins signalée que celle dont fut favorisé saint François de Sales. Après une jeunesse fort orageuse passée dans la dissipation du plaisir et les désordres qui en sont la suite, touché de la grâce, il commençait à se convertir. Mais il lui survint, dans la maison où il demeurait, une occasion de rechute, la plus dangereuse à laquelle il eût jamais été exposé, et qu'il ne pouvait éviter que par une prompte fuite. Il court se jeter aux pieds de Notre-Dame de Bonne Délivrance, conjure la Sainte Vierge de le secourir, et promet, s'il obtient cette grâce, de se livrer entièrement au service de Dieu et du prochain. Sa prière à peine finie, il se sent exaucé, et de retour chez lui, il reconnaît que, par une circonstance extraordinaire, évidemment ménagée par la divine Providence, l'occasion a subitement disparu. Bernard, pénétré de la plus vive reconnaissance, exécute aussitôt sa promesse. Il l'accomplit avec tant de courage et de fidélité qu'il parvint en peu de temps à la pratique des plus sublimes vertus. Redevable de cette faveur éclatante à la protection visible de Marie, il lui en prouva sa tendre gratitude, non seulement par un dévouement tout spécial à son service, mais encore en travaillant sans relâche à la faire honorer par tous les moyens que son zèle industrieux pouvait lui suggérer. Celui qui lui servit le plus efficacement à ranimer dans tous les cœurs la dévotion à Marie fut la prière miraculeuse aimée de saint François de Sales et composée, dit-on, par saint Bernard. Le souvenez-vous, ô très pieuse Vierge. Il la fit imprimer en différentes langues et en distribua plus de 200 000 exemplaires pendant sa vie. Depuis cette époque, les pieux fidèles venaient constamment la réciter à Saint-Étienne-des-Grès devant l'image de la Sainte Vierge, qui montra de plus en plus par des témoignages éclatants combien ce sanctuaire était cher à son cœur maternel. Sa renommée, toujours croissante, parvint jusqu'au souverain pontife Clément VIII, qui confirma et augmenta les indulgences accordées par son prédécesseur, d'heureuse mémoire, à la confrérie de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Il fut imité par les papes Paul V, Grégoire XV et Urbain VIII, qui l'enrichirent tour à tour des trésors de l'Église. À dater de cette époque, ce ne fut pas seulement le peuple et les simples bourgeois qui s'empressèrent d'en faire partie, mais des femmes du monde et des hommes d'armes, des princes et des seigneurs puissants dans le siècle. La piété y associa même plusieurs de nos rois et de nos reines qui ne rougissaient pas de porter les livrées de la Vierge, protectrice de la France, et d'incliner devant son humble image leur tête couronnée. Voici les noms des principaux personnages qui figuraient sur le registre de la confrérie vraiment royale, avec la mention des actes de leur munificence, tels qu'ils sont rapportés dans le livre de cette institution. Louis XIII, ayant mis son royaume sous la protection de la Reine du Ciel, se fit inscrire dans cette confrérie, et de plus il voulut donner des marques de sa libéralité royale par le présent d'argenterie qu'il a fait distribuer aux maîtres et gouverneurs pour l'ornement de la chapelle. Anne d'Autriche s'y fit inscrire le 4 mars 1622, et imitant la piété de ce monarque, a fait présent à la chapelle d'un très riche ornement complet de velours rouge, de chandeliers d'argent fleurs de lycée, d'aménitiers d'argent qui sont existants dans le trésor de la confrérie. Elle y fit inscrire Louis XIV, encore enfant, le 13 mars 1643, et la coutume s'est introduite depuis ce temps d'y associer les enfants de la France dès leur naissance. Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis XIII, a été offert à notre bienheureuse mère et inscrit au nom des confrères le 15 octobre 1632. Le duc d'Anjou et d'Orléans, frère unique de Louis XIV, au mois de mars 1647. À cette occasion, Anne d'Autriche donna une magnifique lampe d'argent d'un poids de 54 mars aux armes du prince. Le grand Condé se fit inscrire sur le registre royal le 20 janvier 1648, la princesse de Caron de Condé en mars 1650. Le prince et la princesse de Conti, février 1661, Marie de Bourbon, fille de France, tante du roi et reine de la reine d'Angleterre, en octobre 1662, Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, le 7 août 1665, elle a offert à Louis Dauphin à Notre-Dame. Elle a offert Louis Dauphin à Notre-Dame et l'a fait inscrire dans la confrérie le 5 juin 1664. Marie-Christine de Bavière, dauphine de France, aïeule de Louis XV, le 2 février 1684. Elle a fait don d'une lampe d'argent, etc., etc. Ce serait sortir des bornes dans lesquelles nous nous sommes renfermés que de mentionner tous les personnages de distinction qui se firent agréger à la confrérie de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Il suffit de dire que les princes les plus illustres de la monarchie ne croyaient pas indignes d'eux d'y inscrire leur nom et de se conformer avec le peuple fidèle sous la bannière de Marie. Leur piété généreuse n'oublie rien de ce qui pouvait contribuer à embellir le sanctuaire. Les uns donnaient de riches vêtements et des robes précieuses pour couvrir la Sainte Vierge, pour couvrir la Sainte Image aux grandes solennités. D'autres versaient dans le trésor de la confrérie d'abondantes aumônes, qui était consacrée à la délivrance des prisonniers pour dettes. Une quête avait lieu à tous les offices pour cette belle œuvre, et chaque année, les maîtres et gouverneurs de la confrérie, comme d'autres pères de la rédemption, se rendaient dans les diverses prisons de Paris, munis des dons de la charité chrétienne, en faisaient ouvrir les portes aux infortunés que la misère y avait précipités, et les rendaient à leur famille attendrie et reconnaissante. Au reste, le zèle et l'empressement des fidèles de tout âge et de tout rang pour le sanctuaire de Marie étaient bien justifiés par la solennité des offices religieux qu'on y célébrait, et dont la multiplicité et la durée effrayeraient aujourd'hui notre tiédeur et notre mollesse mondaine. Nous croyons devoir entrer dans le détail de ces pieuses pratiques, et notamment reproduire la description naïve de la célèbre procession de Notre-Dame de Bonne Délivrance, que nous a laissé un historien déjà cité. Le lecteur pourra juger par là quelle était la ferveur de nos pères et la simplicité de foi de ces temps heureux est déjà si loin de nous. Telle était la pompe pleine de naïveté du culte de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Ces solennités de la foi antique fleurirent jusqu'à l'époque funeste où une audacieuse philosophie jeta le fondement de ses impiétés, c'est-à-dire vers le milieu du XVIIIe siècle. Alors, les auteurs de la grande révolution qui bouleversa plus tard tout l'édifice social et religieux s'essayaient déjà à en détacher quelques pierres, et par leur doctrine, accomplissaient peu à peu cet événement dans les idées et les mœurs de nos pères. La célèbre confrérie, fondée en 1533, devint l'objet de la critique et du dédain de la sagesse orgueilleuse du siècle, dont l'influence commençait à s'exercer sur ceux qui, tenaient les rênes du gouvernement. En butte à des attaques nombreuses, elle devait succomber sous le poids de la calomnie et des intrigues de ses ennemis. Le Parlement de Paris rendit un arrêt qui la supprima le 6 février 1737, après 2 siècles d'existence et de gloire. Mais il n'était pas donné à la puissance humaine de supprimer en même temps la confiance et l'amour des enfants de Marie pour leur mère. Le sanctuaire de Notre-Dame de Bonne Délivrance continua donc à être l'objet de la dévotion des fidèles et le but de leur pieux pèlerinage. On y venait prier sans bruit et sans pompe, comme on le fait aujourd'hui dans son nouveau sanctuaire. Et cet hommage de la foi humble et silencieuse n'en était que plus cher au cœur de celle qui mit toute sa gloire dans la perfection et l'excellence des sentiments intérieurs. Mais enfin, arrivèrent les jours mauvais et le triomphe définitif de l'impiété. La reine des vierges devait être dépossédée des sanctuaires que la foi des anciens âges lui avait élevés, et son image immaculée remplacée sur nos autels par l'idole impure de la raison en délire. Avant la ruine de Jérusalem, la Providence annonça par des signes effrayants les malheurs qui allaient fondre sur la Palestine. Elle en usa de même dans ces derniers temps. Elle fit prédire par des signes non équivoques les crimes et les châtiments de la Révolution. La métropole de Paris avait été effrayée d'avance à l'annonce de la profanation qui devait désoler son enceinte et jusqu'à son autel. On se rappellera toujours le mouvement surnaturel d'un célèbre orateur, le père Beauregard, jésuite, qui fit retentir les voûtes de Notre-Dame de ses paroles prophétiques. « Oui, vos temples, Seigneur, seront dépouillés et détruits, vos fêtes abolies, votre nom blasphémé, votre culte proscrit. Mais qu'entends-je, grand Dieu, que vois-je ? Au saint cantique qui faisait retentir ces voûtes sacrées en votre honneur, succèdent des chants lubriques et profanes. Et toi, divinité infâme du paganisme, impudique Vénus, tu viens ici même prendre audacieusement la place du Dieu vivant, t'asseoir sur le trône du Saint des Saints et recevoir l'encens coupable de tes nouveaux adorateurs. » De son côté, Marie elle-même avertit plus d'une fois ses fidèles serviteurs de se préparer au temps de l'épreuve et de fléchir la colère du ciel si justement irritée. On vit dans divers lieux ces images répandre des larmes, ouvrir et fermer les yeux comme pour annoncer que les regards de la miséricorde divine allaient se détourner de son peuple et le livrer entre les mains des instruments de sa justice. Dans une communauté de Paris, fondée au XVIIe siècle par Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, pour obtenir du ciel la prospérité du royaume et de la famille royale, une statue de la Sainte Vierge, antique objet de dévotion, annonça par ses pleurs les crises les plus sanglantes de la Révolution, et spécialement le supplice de l'infortuné Louis XVI. Ce phénomène surnaturel se manifesta en d'autres contrées. À Ancône, à Rome et dans plusieurs villes d'Italie, on vit à l'approche des années révolutionnaires les images de Marie vénérées dans les églises et sur les places publiques, répandre des larmes abondantes en présence de la multitude consternée. Tels furent les signes lugubres qui annoncèrent les dévastations, sacrilèges des ennemis de la foi et l'abomination de la désolation qu'ils traînaient après eux. L'église de Saint-Étienne-des-Grès présentait à leur cupidité un appât trop séduisant pour échapper à leur fureur. Elle fut donc dépouillée de toutes les richesses que la foi des princes et des fidèles y avait réunies depuis des siècles. On enleva l'or, l'argent, le fer, les grilles, les marbres, les boiseries. On arracha tous les ouvrages de l'art qui décoraient les murs et ces dépouilles sacrées furent mises en adjudication publique. Puis l'édifice lui-même, dont la fondation remontait au premier siècle du christianisme, tomba avec sa célèbre chapelle sous le marteau des démolisseurs. Cependant, par un privilège qui tient du prodige au milieu de ces dévastations sacrilèges, la statue de Notre-Dame de Bonne Délivrance fut respectée et sauvée. La Providence suscita pour l'arracher aux mains des profanateurs une veuve chrétienne qui lui était très dévote et qui, dans les derniers temps, s'était consacrée à la propagation de son culte. La comtesse de Carignan, Saint-Maurice. Cette pieuse dame, ayant appris que le mobilier de la paroisse Saint-Étienne allait être mis en vente, se sentit inspirée de soustraire l'image vénérée de Marie aux outrages d'une exposition publique. Elle a donc trouvé secrètement le 16 mai 1791 les officiers municipaux préposés à la garde de l'église, ayant fait briller à leurs yeux de quoi tenter leur cupidité. Elle les décida à lui remettre l'objet précieux que son cœur convoitait si vivement. Dès qu'elle en fut propriétaire, elle le fit transporter à l'hôtel Traversière, qu'elle habitait rue Notre-Dame-des-Champs, et qui fait aujourd'hui partie du collège Stanislas. La dévote comtesse lui dédia dans ses appartements un petit oratoire qu'elle orna avec le plus grand soin, et où l'on célébrait en secret les saints mystères. Elle ne cessait de porter à ses pieds des vœux ardents pour le salut de la France, alors en proie à toutes les horreurs de l'anarchie. De fervents catholiques s'unissaient à elle et venaient souvent en pèlerinage à Notre-Dame de Bonne Délivrance. Ils étaient soutenus et dirigés par M. l'abbé Bailly, mort depuis évêque de Poitiers, après un épiscopat beaucoup trop court, au gré des peuples confiés à ses soins. Ce digne ecclésiastique s'était réfugié à l'hôtel Traversière, espérant trouver sous la protection tutélaire de Marie un abri contre les fureurs de la persécution. En effet, on rapporte différents traits qui prouvent que la Sainte Image fut pour la maison de Madame de Saint-Maurice ce que l'Arche d'Alliance avait été pour celle d'Obédébon, un gage de salut et de bénédiction au milieu de la plus grande terreur. Cependant, la vénérable servante de Marie ne pouvait éviter plus longtemps le sort glorieux réservé à tous ceux pour qui le nom, la fortune et la piété étaient alors autant de crimes dignes de l'échafaud. Elle fut arrêtée comme suspecte et incarcérée dans une maison de la rue de Sèvres, appelée les Oiseaux, et qui avait été transformée en prison supplémentaire. Là se trouvaient les détenues, plusieurs religieuses hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, avec lesquelles le malheur et la religion lui firent contracter des liaisons intimes, et spécialement avec la révérende mère Walsh de Valois, supérieure générale de cette congrégation. Cette digne religieuse se faisait admirer de toutes les compagnes de sa captivité par sa fermeté d'âme, par sa patience et son empressement à adoucir, autant qu'il était en son pouvoir, les rigueurs de leur situation. Madame de Saint-Maurice eut une part plus tendre à ses soins charitables, et elle en conçut une reconnaissance qu'elle se promit de satisfaire dès qu'elle aurait recouvré sa liberté. Cet heureux moment arriva plus tôt qu'elle ne pensait. Le 4 octobre 1794, les portes de la prison s'ouvrirent pour elle et pour ses amis d'infortune, et cette faveur inattendue fut attribuée à la protection de Notre-Dame de Bonne Délivrance qu'elle n'avait cessé d'invoquer durant sa captivité. Or, à cette époque, la spoliation des maisons religieuses était consommée depuis longtemps. Cependant, par une permission singulière de la Providence, celle des hospitalières de Saint-Thomas avait échappé à l'attention des agents de la tyrannie, et les charitables filles qui l'habitaient continuaient, sous le costume séculier, à panser les plaies des pauvres infirmes qui avaient recours à leurs soins. Mais cette heureuse exception semblait ne devoir pas durer. En effet, au commencement de l'année 1795, elles furent dénoncées au club de leur district comme religieuses déguisées, et une motion fut faite pour mettre en adjudication les bâtiments de leur communauté. Déjà, les affiches étaient placardées lorsque Madame de Saint-Maurice, apprenant le danger que couraient ses chères religieuses et sentant que le moment était venu d'acquitter envers elle la dette de la reconnaissance, se détermine à accomplir un grand sacrifice pour détourner l'orage. Elle se jette aux pieds de sa statue chérie et fait vœu de la donner à la Société des Filles de Saint-Thomas si Marie daigne montrer sa puissance en conservant à la religion et à l'humanité le chef-lieu d'un ordre voué aux soins corporels et spirituels des malades. De leur côté, la mère de Valois et ses filles, informées de cette résolution généreuse qui les pénètre de reconnaissance, commencent elles-mêmes une neuvaine de prières à Notre-Dame de Bonne Délivrance. Et quelques jours après, les affiches menaçantes sont arrachées par une main qui est restée inconnue, et l'héritage de la charité chrétienne est sauvé. Ainsi, on continua à laisser dans l'oubli les humbles servantes des pauvres et les lois d'expropriation sacrilège qui avaient frappé tous les monastères de Paris, épargnèrent par un privilège sans exemple celui des filles de saint Thomas, dont elles sont encore en possession. Enfin, des jours de salut allaient succéder aux nuits ténébreuses de l'impiété, et l'aurore de la paix vint consoler la terre. Dès que la sécurité publique permit d'ouvrir les églises et de relever les autels, la pieuse comtesse songea à l'accomplissement de son vœu. Mais il se passa encore quelque temps avant qu'elle se décida à le réaliser. En effet, l'ancienne chapelle du couvent de Saint-Thomas n'avait ni les proportions ni l'élégance dignes du précieux dépôt qu'elle lui destinait. Elle voulait préalablement qu'on en construisît une nouvelle, et comme les ressources de la congrégation s'étaient épuisées dans les temps désastreux qu'on venait de traverser, elle fut la première à verser une partie des fonds nécessaires pour commencer l'entreprise. En attendant qu'on pût réunir le reste, elle crut devoir soumettre son projet au souverain pontife Pie VII et solliciter son approbation. Pour cet effet, elle eut recours au cardinal Caprara, légat du Saint-Siège en France, et lui remit la supplique suivante. Très saint père, Madame de Carignan, comtesse de Saint-Maurice, a acquis des officiers municipaux de la commune de Paris la statue de la Sainte Vierge vénérée dans l'église collégiale de Saint-Étienne-des-Grès, de la même ville, détruite au commencement de la Révolution. C'est devant cette statue de la Vierge que Saint-François de Sales, faisant ses études au collège des Jésuites de Paris, allait souvent faire ses prières pour obtenir de Dieu, par l'entreprise de Marie, le don de continence. Les souverains pontifes Grégoire XIII et Urbain VIII, eurent d'heureuse mémoire, avaient accordé de grandes indulgences à la célèbre confrérie établie en cette église sous le nom de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Tous ces titres et bulles sont perdus. L'histoire seule en fait mention. Madame de Carignan-Saint-Maurice, très Saint-Père, désirerait placer cette statue restaurée par ses soins dans l'oratoire des religieuses hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, ordre de Saint-Augustin, établi à Paris, rue de Sèvres. Où pourrait-elle être mieux placée qu'au milieu de celles qui sont les plus fidèles imitatrices des vertus de Marie et qui en ont été protégées de manière si singulière? Mais, très Saint-Père, cette bonne œuvre manquerait son but essentiel si elle n'obtenait de votre sainteté le sceau de son approbation. C'est dans cette vue religieuse et afin de perpétuer à jamais le culte de Marie que Madame de Carignan-Saint-Maurice vous supplie, très Saint-Père, de vouloir bien accorder une indulgence plénière à toutes les personnes qui, aux conditions requises, entendront la messe et communieront dans la chapelle où sera exposée cette statue de la Sainte Vierge, à toutes les fêtes solennelles consacrées au culte de Marie, et une indulgence de 100 jours en faveur des fidèles qui, tous les samedis de l'année, visiteront cette chapelle et y réciteront la prière connue sous le nom de « Memorare ». Très Saint-Père, en accueillant la prière de Madame de Carignan-Saint-Maurice, vous exaucerez le vœu le plus doux à son cœur, celui de propager autant qu'il en est, en elle, le culte de Marie. Je suis, avec la vénération la plus profonde, très Saint-Père, de votre sainteté, la plus humble et la plus soumise de vos enfants, Carignan-Saint-Maurice, ce 30 janvier 1805. Le cardinal Caprara approuva au nom de sa sainteté les pieuses dispositions de la comtesse de Saint-Maurice et accorda par le rescrit suivant la plupart des indulgences qu'elle sollicitait pour le sanctuaire de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Le très Saint-Père accorde l'indulgence plénière et la rémission de tous les péchés à tous les fidèles de l'un et l'autre sexe qui, vraiment contrits et s'étant confessés, communieront dans le dit oratoire, pourvu qu'il soit approuvé de l'ordinaire et qu'on y ait dressé un autel en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, les jours de la conception, de la nativité, de la purification, de l'annonciation et de l'assomption de la Vierge, et visiteront dévotement la dite chapelle chaque année, les jours marqués ci-dessus, depuis les premières vêpres jusqu'au coucher du soleil, afin d'y prier pour la paix entre les princes chrétiens, l'extirpation des hérésies et l'exaltation de notre Mère, la Sainte Église. Sa sainteté accorde aussi 7 années et autant de quarantaine aux fidèles, qui rempliront les mêmes conditions aux autres fêtes de la Mère de Dieu. De plus, le souverain pontife, d'après l'usage de la Sainte Église, les délivre de 100 jours de pénitence de quelque manière qu'elle leur ait été imposée, chaque fois qu'ils prieront Dieu dévotement devant le dit autel, le samedi de l'année. En outre, veut le Très-Saint-Père, par grâce spéciale, que les dites indulgences conservent à perpétuité la même valeur que si elles avaient été accordées par lettre apostolique en forme de bref. Cardinal Caprara, Paris, le 12 février 1805. Telles furent les faveurs spirituelles dont le Saint-Siège enrichit de nouveau le pèlerinage de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Cependant, la mère de Valois, malgré le désir qui l'animait d'élever à Marie un nouveau sanctuaire, n'avait pu se procurer les ressources suffisantes pour une telle entreprise. Après un nouveau délai d'un an, Madame de Saint-Maurice se décida à remplir son engagement. Le 1er juillet 1806, veille de la visitation de la Sainte Vierge, l'une des fêtes patronales de la congrégation de Saint Thomas, fut le jour fixé pour la cérémonie si longtemps attendue. À 4 heures du soir, la statue miraculeuse de Marie fut transportée à l'hôtel Traversière, de l'hôtel Traversière au couvent de Saint Thomas de Villeneuve. Et Madame de Saint-Maurice, avec une piété vraiment généreuse, mais non sans répandre des larmes que lui arrachait un sacrifice qui coûtait beaucoup à son cœur, fit solennellement la remise de son précieux dépôt aux religieuses pénétrées de reconnaissance et qui répétait en elle-même ces paroles des anciens d'Israël. Introduisez au milieu de nous l'arche de l'alliance du Seigneur et qu'elle s'y repose pour nous donner le salut et la paix. Ensuite, l'image bien-aimée fut portée dans la chapelle pendant qu'on chantait les litanies de la Sainte Vierge et placée sur un autel préparé pour la recevoir, en attendant la construction d'un monument plus conforme aux vœux des religieuses et de la pieuse donatrice. Là, Notre-Dame de Bonne Délivrance devint l'objet d'un culte fervent et le but de nombreux pèlerinages. De dévots fidèles accoururent à son oratoire pour solliciter les largesses de celles dont ils avaient entendu célébrer l'antique bienfaisance. Et les grâces signalées que plusieurs y reçurent firent renaître une dévotion jadis si féconde en merveilles. Cette restauration inattendue fut un objet d'envie pour une paroisse voisine. Le curé de Saint-Sulpice eut voulu acquérir la précieuse image pour en orner la magnifique chapelle de la Vierge, qui est derrière le cœur de son église, où l'on voyait autrefois une statue en argent qui devint la proie de la Révolution. Il fit à ce sujet des ouvertures qui ne furent point acceptées. D'autre part, les religieuses d'un monastère de la Visitation désiraient vivement posséder au milieu d'elles un objet qui leur rappelait un des traits les plus touchants de leur vie, de leur saint fondateur. Elles proposèrent aux dames de Saint Thomas de leur donner en argent le pesant de leur statue, ce qui eût produit une somme considérable, attendu qu'elle est en pierre. Mais les heureuses propriétaires ne purent jamais consentir à un échange qui les eût privées de ce qu'elles regardaient comme le plus précieux de tous les trésors. La mère de Valois mourut le 23 janvier 1808, sans avoir la consolation de réaliser les projets qu'elle avait formés pour la gloire de Marie. Mais elle légua son zèle et sa piété à la mère de Montgermont, qui lui succéda dans le gouvernement de la congrégation. Cette digne supérieure s'appliqua, autant qu'il était en son pouvoir, à favoriser la dévotion des fidèles de tout âge et de tout rang, qui continuaient à visiter l'image de Notre-Dame de Bonne Délivrance. C'est à ses pieds que quelques années plus tard, une princesse illustre par ses infortunes et par ses vertus vint se prosterner pour conjurer la protectrice de la France d'accorder à une race antique et à jamais glorieuse un rejeton digne d'elle. Et après que ses vœux eurent été exaucés et qu'elle eut obtenu pour la mère et l'enfant une heureuse délivrance, c'est sur son autel qu'elle fit déposer le don de sa munificence royale. Pendant tout le temps de son administration, la mère de Montgermont ne perdit pas un seul instant de vue le projet d'élever à Marie un nouveau sanctuaire. Elle travailla près de 20 ans à réunir les fonds qu'exigeait cette grande et noble entreprise. Déjà, elle touchait à l'accomplissement de ses vœux, lorsque la mort vint l'enlever douloureusement à cette congrégation et lui ravir la jouissance qu'elle s'était promise. La Providence réservait la gloire de cette fondation à la mère céleste Sébire, qui fut élu supérieur général le 2 janvier 1828. Dès qu'elle eut terminé la visite des maisons de son ordre, elle fit tracer le plan du nouveau sanctuaire par un architecte habile, M. Huvet, à qui elle en confia l'exécution. Avant de démolir l'ancienne chapelle, on transporta la statue de Marie dans un oratoire préparé au milieu de la communauté. Et pendant toute la durée des travaux, il fut constamment fréquenté par de dévots pèlerins. Monseigneur de Quélin, archevêque de Paris, vint lui-même y faire sa station. Et comme on était sur le point de poser la première pierre du nouvel édifice, il fut invité à la bénir. Il fixa lui-même cette cérémonie au 11 mai 1829, dans le mois consacré à honorer la Sainte Vierge. Tout fut disposé pour qu'elle se fît, avec une pieuse solennité. Monseigneur de Quélin vint accompagné de Monseigneur de Villèle, archevêque de Bourges, et de Monsieur Desjardins, vicaire général de Paris, tous deux amis de la congrégation, de Monsieur le curé de l'abbaye au bois, et de plusieurs autres ecclésiastiques. On commença par déposer sous la pierre l'écrit suivant. L'an de notre Seigneur 1829, d'après le désir de Madame Jeanne-Élisabeth de Montgermont, précédemment supérieure générale de la congrégation de Saint-Thomas de Villeneuve, la supérieure générale actuelle de la même congrégation, Madame Céleste Angélique Julienne Sebire, a élevé cette chapelle en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame de Bonne Délivrance. C'est devant cette statue, alors dans l'église Saint-Étienne des Grès, qu'autrefois Saint-François de Sales fit vœu de virginité et recouvra aussitôt la paix de l'âme qu'il n'espérait déjà plus. Plus tard, au milieu des excès de la persécution, cette même statue, tirée des ruines de l'église le 16 mai 1791, par les soins d'une fidèle servante de Marie, Madame Carignan Saint-Maurice, fut donnée par elle à la pieuse congrégation pour en être l'éternelle sauvegarde. Hyacinthe Louis de Quélin, archevêque de Paris et pair de France, a solennellement béni et placé la première pierre de cette nouvelle chapelle le 11 mai de l'an 1829. Monseigneur ayant béni la pierre, M. Huvet lui présenta pour la sceller la truelle que son père, comme lui architecte du roi, avait offert à Louis XVI lors de la fondation de l'hôtel des Monnaies. Ensuite, le pieux archevêque se rendit à l'oratoire de Marie pour adresser quelques paroles d'édification à la communauté rassemblée. Là, avec sa grâce accoutumée et ce talent d'à-propos qui lui était si naturel, il laissa échapper du trésor de son âme quelques-unes de ces émanations heureuses qui charmaient tous ceux qui en étaient l'objet et dont le souvenir se conservera toujours parmi les religieuses de Saint Thomas. Pendant la construction du monument, on songea à sa décoration intérieure. Plusieurs maisons de la congrégation se disputèrent l'honneur d'y contribuer et de généreux fidèles déposèrent aussi leurs offrandes aux pieds de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Mais la mère Sébire désirait surtout enrichir sa nouvelle chapelle des trésors spirituels de l'Église. Dans ce dessein, elle s'adressa au cardinal de Lafare, supérieur général de la congrégation, qui s'était rendu à Rome pour l'élection de Pie VIII, et lui fit remettre une supplique pour obtenir de sa sainteté, outre les indulgences accordées à l'ancienne chapelle, le rétablissement de la confrérie de Notre-Dame de Bonne Délivrance, la confirmation de cette confrérie de la Bonne Mort, une indulgence plénière à tous les fidèles qui, ayant rempli les conditions requises, communieront dans la chapelle chacun des jours suivants, le 29 janvier en la fête de Saint-François de Sales, le 2 juillet fête de la Visitation, le 18 juillet fête de Notre-Dame de Bonne Délivrance et le 21 octobre fête de la Présentation de la Sainte Vierge. Une indulgence plénière à toutes les religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve et aux dames pensionnaires du couvent qui communieront dans la chapelle le premier samedi de chaque mois. L'établissement du chemin de croix, un privilège à perpétuité au maître-autel pour toutes les messes de Requiem. Le souverain pontife Pie VIII accorda toutes ses faveurs à l'exception du rétablissement de la confrérie de Notre-Dame de Bonne Délivrance, qu'on ne put obtenir parce qu'on possédait déjà celle de Bonne Mort. Ce fut au crédit du cardinal de Lafare que les religieuses de Saint Thomas furent redevables de ses richesses spirituelles. Elles attendaient encore beaucoup de ses lumières et de sa haute protection. Lorsque sa mort, qui arriva le 9 décembre 1829, peu de temps après son retour à Paris, les priva d'un bienfaiteur et d'un ami dont la mémoire leur sera toujours chère. Mais la Providence compensa cette perte par le choix heureux de son successeur, les suffrages de la congrégation se réunirent pour élire en qualité de supérieur général Monseigneur de Quélin, qui daigna accepter cette fonction le 16 mars 1830. La chapelle dont il avait posé la première pierre était presque entièrement construite. Il se proposait d'en faire l'inauguration le 20 avril suivant, jour fixé pour la translation des religieuses de Saint-Vincent de Paul et la procession solennelle s'arrêtant à Notre-Dame de Bonne Délivrance, aurait déposé quelques instants la châsse du serviteur de Dieu au pied de la Reine du Ciel. Mais les préparatifs ne purent être terminés à temps. Marie fut cependant associée en quelque manière à l'auguste solennité dont la capitale fut témoin. Plus de 30 000 médailles frappées à cette occasion, des gravures sans nombre répandues dans toute la France, instruisirent les fidèles du double objet de cette cérémonie et les invitèrent à louer Marie et son serviteur. Peu de temps après, la Providence ménagea aux religieuses de Saint-Thomas un événement qui devait concourir d'une manière très heureuse avec l'inauguration de leur chapelle et ajouter beaucoup au bonheur de cette journée. Au mois de juin 1830, la mère Sébille reçut une lettre anonyme conçue en ces termes. « Madame, au moment où votre nouvelle chapelle est sur le point d'être terminée, je crois faire une chose qui vous sera agréable en vous donnant l'espérance de pouvoir y déposer les restes précieux du père Ange Le Proust, religieux augustin, instituteur de votre société. Son tombeau ayant échappé aux fureurs révolutionnaires, vous le trouverez sous la 6e arcade du cloître de l'ancien couvent des petits Augustins, connu maintenant sous le nom d'École des Beaux-Arts. On y lit cette inscription. Le révérend père Ange Le Proust, religieux augustin, ex-provincial, instituteur des filles de Saint-Thomas de Villeneuve, dont la profession est de servir les malades dans les hôpitaux. Le révérend père mourut le 16 octobre 1697. Le projet de démolir ce cloître est une circonstance qui vous procurera plus facilement encore le moyen d'obtenir ce que sans doute vous désirez. La lecture de cette lettre frappa vivement la mère Sébille, d'autant plus qu'ayant compulsé les archives de la congrégation, elle trouva une lettre qui constatait dans les mêmes termes que l'anonyme de l'époque de la mort du père Ange Le Proust et le lieu de son inhumation. Cette découverte précieuse fut regardée par les religieuses de Saint-Thomas comme une faveur éclatante du ciel et combla tous les cœurs de consolation et de reconnaissance. Monseigneur de Quélin, informé de cet heureux événement, fit aussitôt dresser une demande au ministre afin d'obtenir les restes du père Ange Le Proust, dont il s'honorait, disait-il, d'être le successeur. Et il promit d'appuyer cette requête de telle sorte que la translation du précieux corps pût avoir lieu le jour même de la bénédiction de la chapelle qu'il fixa au 5 août, fête de Notre-Dame-des-Neiges. En même temps, il ordonna des prières ferventes dans toutes les maisons de la congrégation pour obtenir de Dieu qu'il daignât bénir ses pieux projets et manifester publiquement, si c'était pour sa plus grande gloire, la sainteté de son serviteur. Mais le ciel réservait alors à la France de nouvelles calamités qui devaient convertir en amertume profonde les jours de fête et de sainte allégresse que se promettaient le pasteur et son troupeau. En effet, tandis que tous les cœurs se livraient à l'espérance, la tempête politique de juillet 1830 vint soudainement renverser les projets des amis de Dieu et refouler au fond des âmes tout élan religieux. Le vénérable archevêque de Paris fut proscrit, sa demeure mise au pillage, et le 5 août, jour fixé pour la bénédiction de la chapelle, il était réduit à errer d'asile en asile pour se soustraire à la fureur d'un peuple égaré. Il fallut donc, pour le moment, renoncer à l'espoir de recouvrer la dépouille vénérée du père Ange Le Proust. Ce ne fut que 4 ans plus tard qu'on put en opérer la translation et la déposer dans un caveau où elle repose au pied de la statue de Marie. Quant à l'inauguration du nouveau sanctuaire, elle ne fut différée que de quelques jours, mais elle dut se faire sans cette pompe et cette solennité extérieure dont la piété eût désiré entourer la reine des cieux. On se borna à une cérémonie privée. Auparavant, on eut soin de constater, par un procès-verbal dressé selon les formes canoniques, l'identité de la statue de Marie avec celle de Saint-Étienne des Grès. Nous réunissons ici les dépositions qu'on reçut à ce sujet, tant avant qu'après l'inauguration. Nous sous-signés attestons et certifions, premièrement, que la statue de la Sainte Vierge, qui était placée dans une chapelle à gauche du maître-autel dans l'église de Saint-Étienne-des-Grès, était en pierre assez grossièrement sculptée, et que la tête, les mains et les pieds, tant de l'enfant Jésus que de sa mère, étaient peints en couleur noire. Deuxièmement, que nous avons appris tant par la voix publique que par le témoignage de Madame de Saint-Maurice, avec qui nous avons eu l'honneur d'avoir de fréquents rapports, que cette respectable dame avait acheté de la commune de Paris la dite statue. Troisièmement, que nous avons été témoins du don qui en a été fait à la communauté des dames Saint-Thomas de Villeneuve, rue de Sèvres, et de la Sainte Allégresse qui excita son érection dans l'ancienne chapelle de l'établissement, ainsi que du pieux concours des fidèles qui vinrent, avec assiduité, vénérer l'image de Marie. En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat pour servir à constater l'identité de la statue. Évêque de Grenoble, Paris, le 21 mai 1830. Je sous-signé déclare que j'ai vu un peu avant la Révolution, dans l'église Saint-Étienne-des-Grès, une statue de la Sainte Vierge, dont la tête, les pieds et les mains étaient peints en couleur noire. Je déclare en outre que la statue qui se trouve maintenant chez les dames de Saint-Thomas, rue de Sèvres, me paraît être la même. Berthaud, supérieur général du séminaire du Saint-Esprit et des maisons coloniales, Paris, le 30 juin 1830. Je sous-signé curé de la paroisse de Notre-Dame de Lorette à Paris et vicaire général de Dijon, certifie la même chose que M. Berthaud, le clerc vicaire général, Paris, le 1er décembre 1830. Je sous-signé Michel Barbier, ancien avocat au Parlement de Paris, certifie que la Sainte Vierge, qui est présentement honorée dans l'église Saint-Thomas de Villeneuve, rue de Sèvres, est la même que celle que j'ai eu le bonheur d'honorer dans ma jeunesse, dans l'église Saint-Étienne-des-Grès, sous le nom de Bonne Délivrance, il y a plus de 60 ans. En foi de quoi j'ai signé le présent certificat que je signerai de mon sang pour plus grande authenticité. Barbier, Paris, 29 décembre 1830. L'identité de la statue étant constatée, on obtint de M. Boudot, vicaire général de Paris, des pouvoirs spéciaux pour procéder à la cérémonie si désirée. Enfin, le samedi 21 août 1830, en présence de la révérende mère Céleste Sébire, supérieure générale, de la mère de la Villebrune, son assistante, et de toutes les religieuses composant la communauté des hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, le père Célier, jésuite, assisté du père Nisard, bénit premièrement l'enceinte intérieure de la nouvelle chapelle, puis le maître-autel, sous le titre de Notre-Dame de Bonne Délivrance, l'autel collatéral à droite sous le vocable Sacré-Cœur de Jésus, et l'autel collatéral à gauche sous celui de Saint-Thomas de Villeneuve, patron et protecteur de la congrégation. Ainsi, après 39 ans d'exil, Notre-Dame de Bonne Délivrance rentra en possession d'un nouveau sanctuaire de la capitale, de la France, et offrit son cœur maternel comme un asile tutélaire aux nombreuses victimes de ces révolutions. Cet élégant édifice a 80 pieds de longueur et 42 de largeur. Le plafond de la nef est orné de compartiments avec caisses et rosaces. Au milieu du cœur s'élève un baldaquin avec fronton, soutenu par 4 colonnes, dont le soubassement supporte la statue de Marie. Ce monument est en stuc, jaspé. L'autel en marbre blanc, avec des ornements en cuivre doré, est adossé au soubassement. Dans l'aile gauche, au-dessus des stalles des religieuses, on remarque un tableau représentant saint Thomas de Villeneuve qui distribue des aumônes aux pauvres. C'est un don de M. l'abbé Desjardins, vicaire général de Paris. Dans l'aile droite, on voit le tableau de la Visitation de la Sainte Vierge qui ornait l'autel de l'ancienne chapelle. Ce gracieux monument a obtenu les suffrages des hommes de goût pour l'harmonie et la noblesse de ses proportions. Les saintes religieuses qui en sont les gardiennes, fières de posséder une statue renommée par l'antiquité de son culte et devant laquelle saint François de Sales vint tant de fois s'agenouiller, coulent d'heureux jours sous la protection de Marie, leur mère et leur modèle. Vouées au soulagement des infirmités humaines, elles viennent sans cesse au pied de celle que l'Église appelle le salut des infirmes, solliciter les grâces nécessaires pour remplir avec courage la carrière laborieuse et sublime qu'elles ont embrassée. étudier le secret de guérir les plaies de l'âme en même temps que celles du corps, et puiser dans le cœur de la plus tendre des mères cette charité compatissante, ce feu sacré de la miséricorde qui les porte à devenir les servantes des pauvres et les mères de l'enfance abandonnée ou souffrante. Attirées par la bonne odeur de leur vertu et par un attrait puissant qui émane incessamment de l'image miraculeuse de Marie, des troupes de vierges viennent de tous les points de la France s'initier aux travaux de la vie hospitalière à l'école de la consolatrice des affligés et réaliser cette parole de David que saint François de Sales appliquait à Marie lorsqu'il disait « Une multitude de vierges prosterneront après elle. Ses compagnes de l'épouse seront conduites avec joie dans le palais du roi. » Car la virginité de Notre-Dame à cette suréminence au-dessus des anges, qu'elle est féconde non seulement en ce qu'elle a produit et porté ce doux fruit de vie, notre Seigneur, mais encore en ce qu'elle engendre plusieurs vierges, et que c'est à son imitation que tant de filles vouent et consacrent à Dieu leur pureté. Adducentur regi, virgines post eam, afferentur in letitiae, et exultatione in templum regis. Ô vous à qui la Providence a confié un dépôt si sacré, vierges heureuses, qui possédez dans vos foyers l'arche de la délivrance et du salut, regardez-la comme le plus précieux de tous les héritages, comme une sauvegarde au milieu de tous les dangers, comme le palladium de votre belle institution. Que pourraient contre votre utile et sainte société les persécutions des hommes? Au milieu de vous s'élève une tour de défense qui vous offre un refuge inaccessible aux fureurs même de l'enfer. Mais en vous faisant les dépositaires de ce trésor, le ciel vous a donné une grande et sainte mission, celle de détourner par vos supplications ardentes les calamités nouvelles que l'impiété s'efforce de déchaîner contre notre patrie. Conjurez la protectrice de la France de sauver du naufrage son peuple privilégié, et d'arrêter par un miracle de sa toute-puissance auprès de Dieu ce torrent d'iniquité qui menace de nous engloutir. La prière des cœurs purs doit monter jusqu'au ciel. Elle doit être entendue, elle doit être exaucée. Puisse le parfum de cet holocauste arriver jusqu'au trône de la libératrice des nations chrétiennes et en faire descendre sur nous une rosée abondante de faveurs et de bénédictions divines. Et nous, humbles pèlerins de Notre-Dame de Bonne Délivrance, initiés aux pieuses traditions, aux touchants souvenirs qui se rattachent à son image miraculeuse, nous avons cru devoir les raconter à nos frères, afin que, gravés dans les cœurs fidèles, ils puissent échapper aux ravages du temps qui entraîne tout dans l'abîme de l'oubli. Aujourd'hui, d'ailleurs, le culte de Marie renaît de toutes parts avec une force nouvelle. Au milieu de tant d'agitations et de scandales, à la vue des orages qui grondent sur nos têtes, chacun sent le besoin de se replacer sous la protection tutélaire de celle que l'Église a nommée à si juste titre le secours des chrétiens. Les peuples effrayés des tempêtes qui les ont fait dévier de la voie de la vérité et ayant perdu de vue le port de salut, lèvent maintenant leurs mains suppliantes vers cette étoile de la mer dont le navigateur égaré n'implore jamais en vain la lumière. Un retour aussi universel est le gage de la plus légitime espérance, et Marie elle-même semble le seconder par des faveurs extraordinaires. Qui ne connaît en effet les merveilleux accomplis en France à l'occasion de la médaille miraculeuse et dans le monde entier par l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires? Qui n'a pas ouï raconter ces guérisons de l'âme et du corps opérées en si grand nombre par l'intercession de la Mère de Dieu? Tant de prodiges annoncent assez son action miséricordieuse sur le monde. Aussi, des écrits sont publiés de toutes parts pour proclamer ces merveilles et justifier par l'histoire des monuments de tous les âges ce développement immense de la confiance des chrétiens de nos jours pour Marie. Nous avons essayé d'y contribuer par notre faible part, en révélant aux âmes éprouvées par la souffrance et la tentation une source peu connue de ses faveurs et de ses consolations les plus intimes. C'est une modeste fleur qu'un fils, reconnaissant lui-même de bienfaits sans nombre, dépose aux pieds de sa mère bien-aimée, en la priant de l'accueillir avec un regard d'indulgence, de la féconder et de lui porter des fruits abondants et pleins d'une céleste suavité. Le 2 février 1844, fête de la purification de la Sainte Vierge, l'abbé